Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h09, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Bon dimanche, merci d'être là, deuxième partie, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Petite précision concernant notre jeu. Depuis tout à l'heure, on vous invitait à jouer avec nous pour remporter des box Wamiz chat et chien. Visiblement, on a un petit souci technique avec notre jeu par SMS, donc ce n'est pas la peine de nous envoyer chat ou chien par SMS, car ça ne marche pas. Mais vous savez quoi, on se rattrapera dans les semaines qui viennent, on vous offrira d'autres box, ne vous inquiétez pas. En revanche, lui, bah oui mon petit chien, ne t'inquiète pas, en janvier on se rattrapera. En revanche, le 3216, lui fonctionne, Laetitia. Oui. Vous pouvez nous joindre pour poser toutes vos questions à notre vétérinaire. 3216 ou bien le mail, là aussi pas de problème, animaux@rmc.fr. Laetitia, on va commencer par... une décision étonnante qui a été prise en Wallonie.
Voilà, qui rend obligatoire la stérilisation de...
C'est fou ça.
Tous les chats du territoire. Ouais. Et nous sommes avec Anne de Griff qui est la directrice de Gaïa. Gaïa qui est l'association de défense des animaux la plus influente et une des plus connues en Belgique. Anne, bonjour, merci.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour,
avec nous.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que cette semaine a été adoptée en Wallonie, donc une des régions belges, une loi... inédite, alors peut-être inédite au monde d'ailleurs, celle de d'imposer la stérilisation des chats. Pourquoi une telle décision ?
Ben, on est en tout cas super heureux parce qu'en effet c'est unique au monde, presque unique au monde, et c'est absolument nécessaire parce qu'en Belgique il y a 30 000 chats qui arrivent dans les refuges chaque année,
oui,
dont un tiers, et en Wallonie, même un sur deux, doivent être euthanasiés par manque de place, par manque d'adoptants. Et donc, c'est une catastrophe tous les jours, parce qu'on doit... Enfin, il faut vous imaginer, vous ouvrez un refuge, vous voulez faire du bien pour les animaux, vous voulez accueillir et trouver un nouveau foyer pour les animaux maltraités, abandonnés. Et chaque fois, il faut décider entre la vie et la mort d'un chat qui a toute sa vie devant lui, juste parce qu'il y en a beaucoup trop et parce que les gens laissent faire la nature. Et chez les chats, 1 plus 1, c'est 6, deux fois par an. Et voilà, donc c'est une mesure absolument nécessaire et on est très fiers de ce résultat. C'est une loi qu'on attend depuis très longtemps.
Alors, je sais, voilà, vous venez de dire, vous avez milité pour qu'une telle loi soit votée, mais... quand même, c'est quand même extrême comme décision. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chatons en Wallonie ?
Mais madame, c'est une loi extrême parce que la situation, elle est extrême, elle est dramatique pour les chats. Il faut vous imaginer, vous avez un refuge, vous avez un cœur pour les animaux, vous ouvrez votre frigo, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des cadavres, des animaux qui avaient toute leur vie devant eux.
Parce qu'il y a beaucoup d'euthanasie, c'est ça, dans le...
En Wallonie, c'est un chat sur deux qui ne trouve pas un foyer, donc il y en a beaucoup, beaucoup trop.
Ah oui.
Et il y aura toujours des chats, donc il y a toujours moyen d'assouplir la loi. Mais pour le moment, il faut une mesure extrême parce que la situation, elle est dramatique. Et une fois que... la loi sera respectée par tout le monde. Il y a toujours, de toute façon, moyen d'avoir une exemption. Donc, on peut toujours se faire reconnaître comme éleveur si on veut faire des nichés. Mais ça ne sera pas la majorité. Disons que si 90% des gens respectent la loi et ne demandent pas d'exemption, on aura toujours des chats à adopter. On ne va pas faire disparaître la race de chats européens. C'est pas le but.
Voilà, c'est ce qu'on pense parce que je crois qu'il y a des exceptions. Voilà, les éleveurs bien sûr de chats, les éleveurs de chats de race peuvent faire reproduire leurs animaux. Il y aura ces exceptions là, mais il y a quand même une question. C'est OK pour cette loi, mais comment la faire appliquer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des contrôles?
Oui, c'est-à-dire que en même temps, l'identification et l'enregistrement des chats va être obligatoire.
D'accord.
Et donc, il y aura un registre.
Comme en France.
Voilà, donc il y aura un registre et dans le registre, il faudra que le vétérinaire mentionne que le chat est stérilisé ou non. Maintenant, si vous me demandez est-ce qu'on peut à 100% contrôler, évidemment non. Mais ça, c'est le cas avec aucune loi. On peut, enfin, il y a l'identification des chiens est obligatoire depuis 98 en Belgique.
Oui.
On peut pas contrôler. Il n'y a pas des policiers à tous les coins de rue. Mais après quelques années, on est quand même à 80% d'application de la loi, même 85% des chiens sont identifiés. Donc c'est une loi, enfin ça mène aussi à un changement de mentalité.
Oui, une réflexion aussi, oui.
Voilà, c'est ça.
Parce
et
que
nous, le but c'est d'avoir un équilibre entre le nombre d'adoptants et le nombre de chats qui arrivent dans les refuges.
Est-ce
pour qu'il n'y ait plus d'euthanasie.
On peut quand même se demander pourquoi ne pas faire seulement des campagnes de stérilisation des chats errants et des campagnes de sensibilisation des propriétaires pour qu'ils ne fassent pas reproduire leurs chats. Parce que là, c'est quand même extrême.
C'est assez radical.
Parce que les campagnes de sensibilisation, ça fait 20 ans, nous, ça fait 24 ans qu'on existe, ça fait 20 ans qu'on en fait.
Oui.
Et il y a toujours un chat sur deux en Wallonie qui doit être tué par manque de place. Il y a toujours des chats errants parce que c'est pas compté dans les statistiques, bien sûr, des refuges. Donc, les campagnes de sensibilisation, c'est très bien et on doit continuer pour l'application de la loi. Mais uniquement ça, c'est pas assez. Il faut une loi, vraiment, il faut que ce soit rendu obligatoire.
C'est un peu une loi coup de poing pour éveiller les consciences.
Oui, c'est ça.
Mais qui peut évoluer.
Une loi, ça sensibilise aussi.
Voilà.
Oui, mais on en est loin, là. Donc, pour changer la loi, il va falloir peut-être 10, 15 ans. Et si là, on a un équilibre entre le nombre de chats qui arrivent dans les refuges et le nombre de chats qui est adopté, là, on peut envisager de changer la loi. Mais ici, on en est loin. Hein. On est à des milliers de chats euthanasiés. Il y a des chats qui arrivent sur la rue parce que les gens pensent, oui, un chat, ça tire son plan. Mais très bien, mais il est déposé dans les rues et puis il cause un problème de surpopulation. De chats errants.
Mmh.
Et puis, c'est les communes qui doivent payer pour stériliser les chats errants. Tandis qu'ici, on prend le problème à la base, on ferme le robinet à la base et c'est chez les particuliers.
Alors, Anne, parlons un petit peu de la législation sur les animaux en Belgique, et la comparer un petit peu à la législation française. Alors, je sais que grâce à vous, grâce à d'autres associations, vous avez fait avancer les choses, comme par exemple interdire des animaux sauvages dans les cirques.
Oui, ça c'est une loi nationale qui date d'il y a quelques années. Donc on n'a plus des animaux sauvages dans les cirques, mais dont on est très fier aussi, c'est le fait on a trois ministres qui s'occupent du bien-être des animaux.
Oui, il y a un ministère. Oui, c'est incroyable.
Dans leurs compétences, donc dans leur titulature, en fait. Donc, il y a trois ministres qui sont ministres de bien-être animal et la compétence est séparée de l'agriculture. C'est très important. Et il y a peu de pays au monde où le bien-être animal ne fait pas partie des compétences d'un ministre de bien-être de l'agriculture. Et ça, c'est très important.
C'est incroyable. Et je sais que vous vous occupez aussi beaucoup des conditions de vie des animaux de rente. C'est un autre combat pour vous. Alors, vous avez vu les scandales en France des abattoirs après la diffusion des vidéos chocs sur la maltraitance animale. Avez-vous les mêmes problèmes en Belgique?
Ah, mais ça, c'est les abattoirs, ça, c'est universel. Hein. Je suis sûre que si on met n'importe où, dans n'importe quel abattoir au monde, on met une caméra, vous allez voir à peu près la même chose. Hein. Ça, c'est, vous savez, les gens qui travaillent dans les abattoirs, je dis pas que ce sont des monstres, mais ce sont devenus des robots. Hein. On doit un peu oublier et faire dysfonctionner ses émotions, parce que sinon on ne sait pas travailler dans un abattoir. Hein. Mais nous aussi, on a déjà plusieurs fois été filmés en caméra cachée dans des abattoirs belges, notamment où on abat sans étourdissement. Et c'est d'ailleurs un très grand débat politique, surtout dans le nord du pays, où c'est à l'agenda politique pour faire interdire l'abattage sans étourdissement. C'est un premier pas. Mais évidemment, même avec étourdissement, un abattoir, c'est jamais joli, hein.
Parfait. Merci beaucoup, Anne de Greff. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle, vous êtes la directrice de Gaïa, qui est groupe d'action dans l'intérêt des animaux. C'est une association de défense des animaux belge et vous aurez le lien sur notre page Facebook.
Laetitia, merci, Anne. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux animaux célèbres. On a quelques petites histoires avec Marie-Christine Deprin qui nous rejoint dans un instant. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir, nous appeler, poser vos questions à notre vétérinaire. Le 32-16, animaux@rmc.fr. On est là dans une minute. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h20, le retour du week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Notre veto, qui c'est ?
Le veto, je crois bien.
Eh bien oui, c'est comme ça tous les dimanches, 6h, 8h. Et à partir de 8h, vous retrouverez Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Toutes vos questions auto au 32-16 et entre autres un sujet sur Top Gear, la saison 3 qui débute. On aura quelques-unes des stars de Top Gear et puis aussi, on parlera de GPL. Tout ça à partir de 8h, mais dans l'immédiat, les animaux, Laetitia, avec quelques histoires d'animaux célèbres maintenant.
Oui, avec Marie-Christine Deprin, qui est auteure de Le chat de Schrödinger et autres animaux célèbres aux éditions Pygmalion. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, votre dernier livre est un recueil d'histoires aussi passionnantes les unes que les autres, bien sûr, sur des animaux qui sont devenus célèbres grâce parfois à leur humain, qui est aussi célèbre. Alors, parlez-nous pour commencer du chien de Freud.
Alors, dans ce livre, en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire d'un animal qui se situe à un tournant de l'histoire. Alors, le chien de Freud, évidemment, c'est l'occasion aussi de raconter un peu cette période de la naissance de la psychanalyse et tout ça. Et donc, tout le monde connaît Freud, hein, il vivait à Vienne au début du XXe siècle, c'est le découvreur de l'inconscient, le fondateur de la psychanalyse, c'est un homme très sérieux, un bourreau de travail qui a voué sa vie à ses patients.
On ne savait pas qu'il avait un chien, justement.
Voilà, mais alors ça, en fait, son amour pour les bêtes, parce qu'il avait une sorte d'amour universel pour les humains, mais son amour pour les bêtes lui est arrivé tardivement dans sa vie, quand il avait une soixantaine d'années à peu près, et puis à cette époque de sa vie, il avait été frappé par beaucoup de drames personnels. Il avait perdu sa fille Sophie de la grippe espagnole, son petit-fils, et puis il commençait à souffrir d'un cancer très douloureux à la mâchoire. Et puis, donc, il travaillait avec sa fille cadette, Anne. Ils travaillaient très fort, là, tous les deux. Et elle n'avait pas beaucoup de distractions. Elle faisait des marches dans les forêts autour de leur maison, dans la banlieue de Vienne. Et donc, pour rendre ses promenades plus agréables, elle avait adopté un berger allemand qui s'appelait Wolf. Et Freud a commencé à fréquenter de près cette bête et à s'y attacher. Si bien que pour ses 70 ans, lui qui détestait les cadeaux d'anniversaire, Anna lui avait fait faire lui avait pris une photo du chien Wolf et l'avait offert à son père pour son anniversaire. Et donc, Freud adorait cette photo et il l'avait mis dans son cabinet. Et cette photo est restée à Vienne jusqu'au départ de Freud. Et donc, il y a eu une sorte de tradition familiale qui s'est instaurée. Anne, chaque année, glissait dans le collier du chien un petit poème qu'elle avait rédigé, un petit poème très très simple, très tendre. Enfin, dans le livre, on a traduit ses poèmes, donc c'est très amusant. Et puis, alors Freud avait une patiente, une amie, qui était la princesse Marie Bonaparte, Et c'était une disciple, enfin elle est devenue sa disciple. Mmh. Et elle-même, la princesse, adorait les chouchous. Vous savez, c'est des chiens un peu orientaux. Enfin, dans cette question, les auditeurs doivent savoir ce que c'est qu'un chouchou. Bon. Et c'est aussi un chien indépendant, sensible, sérieux. Bon, la présidente du club des chouchous m'avait dit au moment où je rédigeais ce livre que les chouchous étaient des intellectuels. Bon.
Et donc, du coup, Freud était en admiration devant les chouchous, non?
Mais voilà.
Parce que c'est des chats-chiens, hein, des chiens-chats plutôt, les chouchous.
Ah ben voilà, alors oui, voilà, ça doit être des chiens. Oui, je pense que pour des gens qui travaillent chez eux, ça doit être un chien idéal, je ne sais pas.
Oui.
Et donc la princesse lui a donné un premier chien qui s'appelait Lu Yun. Alors l'histoire n'a pas été très gaie parce qu'il a perdu son chien dans la gare. Il a eu un premier choc. Mais Marie Bonaparte lui a donné après un autre chiot qui s'appelait Joffy. Alors Freud l'avait appelé comme ça parce que Joffy, ça veut dire beauté en hébreu. Et donc il est tombé fou, amoureux de son chien.
Et il a pensé à l'inconscient du chien ou pas?
Je crois pas du tout.
Il a pas fait sa psychanalyse au chien?
Pas du tout. Alors parce que je vais vous lire un tout petit, c'est très court. Il a écrit à un moment Marie Bonaparte a écrit un livre sur son chien à elle qui s'appelait Topsy. Et donc, elle a envoyé le manuscrit à Freud. Et Freud, d'ailleurs, c'était un des seuls livres qu'il a envisagé de traduire. Et donc, il écrit à la princesse les vraies raisons pour lesquelles on peut aimer un animal sont l'affection dépourvue de la moindre ambivalence, la simplicité d'une vie libre de conflits de la civilisation et la beauté d'une existence parfaite en soi.
C'est quand même Freud qui dit ça, donc.
Oui, et il dit, en dépit de toutes les différences organiques, je ressens un sentiment de parenté intime, d'affinité incontestée. Donc voilà, peut-être que ça le reposait de l'inconscient des humains.
Ben voilà. Alors voilà. Parlez-nous du cheval bucéphale qui est entré dans la légende grâce à Alexandre le Grand.
Ah oui, alors ça, ça c'est encore une histoire de rencontre. Alors là, on est en 356 avant Jésus-Christ. On est en Macédoine. Alexandre est un enfant. Il est le fils de Philippe II, qui est un empereur, un grand guerrier. Et donc on lui apprend, Philippe apprend à son fils le métier de roi. Et donc à l'époque, être un roi, c'était être un cavalier, parce qu'on faisait la guerre à cheval. Bon, et un bon cavalier, il doit avoir un bon cheval, un cheval courageux qui doit aimer la conquête aussi. Donc Philippe II emmène son fils. Quand il choisit des bêtes, il emmène son fils pour que le fils apprenne comment on choisit un bon cheval. Mmh. Et donc un jour, il y a un éleveur très connu qui a un jeune cheval absolument magnifique dans son écurie qu'il a l'intention de vendre extrêmement cher. Donc il fait contacter Philippe II pour savoir si ça l'intéresse. Donc Philippe, il va immédiatement, il adore les chevaux, il emmène son fils. Et donc là, quand il voit la bête, il est absolument sidéré, parce que la bête est magnifique. C'est un cheval très haut, très noir, avec une marque blanche sur le front. Bon, il est absolument superbe. Donc,
et qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Christine, oui?
Donc. Oui, alors donc, ce qui se passe, c'est que Philippe appelle un cavalier pour monter ce cheval superbe, et le cheval se cabre, rue, etc., et désarçonne le cavalier. Finalement, on amène un des meilleurs cavaliers du royaume, il essaie aussi de monter le cheval, bon, ça ne marche pas, et Philippe est exaspéré, il dit « bon, ben, je vais pas le prendre », et à ce moment-là, son fils, Alexandre, qui a 12-13 ans à l'époque, approche de son père et il dit « mais laissez-moi essayer, je crois que je saurai comment le prendre ». Et en fait, il a remarqué que le cheval se cabre parce qu'il est dos au soleil, donc il a son ombre devant lui, et il est effrayé par son ombre. Donc doucement, Alexandre s'approche de ce qu'il nommera bucéphale après, et il le fait tourner face au soleil. Le dos au soleil, face au soleil plutôt, pour qu'il ait son ombre derrière. Et il lui parle, il le caresse pour l'amadouer. Bon, et finalement, il l'enfourche à cru. Donc, à l'enfant... s'en va et il chevauche comme des fous là dans la steppe. Il paraît que c'est extraordinaire.
Bah, Christine, il faudrait que vous concluiez l'histoire parce que notre journaliste pour l'info de 7h30 attend.
en fait, c'est pour ça.
D'accord. On est un peu en retard.
En tout cas, ça va être une histoire de guerre et d'amour magnifique. Ils vont conquérir l'Est. Et Alexandre ira jusqu'en Inde.
D'accord.
Avec son cheval qui mourra à 30 ans.
Ah oui.
Et donc Alexandre, en hommage à son cheval, fondera une ville qui s'appelle Bucéphalie et qui est en Inde.
D'accord.
Et voilà. Et à la mort du cheval, on dit que Alexandre a été il a subi un véritable deuil. Donc c'est une histoire de conquête. En fait, il faut voir tout ce qui se passe avec ce cheval dans tous les pays et c'est absolument extraordinaire, quoi.
Merci Marie-Christine.
Merci Marie-Christine.
Merci. Au revoir.
Alors vous êtes l'auteur de Le chat de Schrödinger et autres animaux célèbres. Donc si vous voulez lire d'autres histoires d'animaux célèbres, je vous conseille ce livre aux éditions Pygmalion.
On revient dans un instant, météo info sur RMC, à tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin, attention, attention. Il est temps de retrouver une petite question flash. Vous le savez, en moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Stéphane. J'adore les chèvres naines, nous dit Stéphane.
Ah, moi aussi.
Écoutez, oui. Surtout que ça peut rentrer dans le four, c'est ça qui est pratique.
Oh, mais n'importe quoi.
Et j'ai un très grand terrain et j'aimerais en adopter, Laetitia. Dois-je choisir un couple de chèvres naines?
D'abord, c'est vrai qu'il faut en prendre deux. Ou alors, vous prenez une chèvre et un mouton, ou une chèvre et un âne.
Parce que toute seule, elle s'ennuie.
Elle s'ennuie. Ce sont des animaux adorables. Non, franchement, les chèvres sont adorables.
Ah,
elles
oui
sont joyeuses. On peut
les apprivoiser.
Très attachantes. Mais oui, bien sûr. Elles sont un petit peu indépendantes, mais très affectueuses aussi. Elles adorent les enfants. Donc, c'est vrai que la chèvre naine, vous voyez, comme elles sont petites, c'est très bien pour les enfants qui peuvent les caresser. Mais elles aiment la compagnie. Donc c'est vrai qu'il faut toujours en prendre deux ou alors prendre un mouton. Alors, est-ce qu'il faut prendre un couple ou pas? Deux portées par an si vous faites partir de 5 mois d'âge. Donc,
on va se retrouver avec des petits moutons partout.
Et puis alors, le mâle, quand la femelle est en chaleur, il pue, c'est faut le dire quand même, et il devient agressif. Donc stérilisez le mâle ou alors prenez deux femelles.
Et deux femelles, là, on les stérilise aussi, non?
Non, pas forcément, c'est très bien, elles s'entendent très bien.
Il ne faudrait pas qu'il y ait un mâle dans les alentours.
Mais si vous prenez un couple, il faut stériliser le mâle, c'est très important, voilà. Mais sinon, bien sûr, si vous avez un grand terrain, pourquoi pas?
Et c'est pas méchant comme animal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction parfois violente, etc.
Le mâle, quand il est en rut, il peut attaquer. Bon, enfin, ce n'est qu'une chèvre naine, quand même, c'est pas non plus...
Ça fait quelle taille, ça? C'est la taille d'un petit chien?
Alors, 50 cm au garrot, vous avez entre 20 et 30 kilos, quand même, c'est petit quand même.
Ouais, pas mal ça, tiens, pourquoi pas.
Voilà, et ça vit quand même 14 à 17 ans, donc faites attention, réfléchissez bien avant de prendre des chèvres naines.
RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h36, c'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia Barlerin à mes côtés jusqu'à 8h et puis juste après ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, tout à l'heure on découvrira un documentaire qui sera diffusé sur M6 le 1er janvier prochain.
Oui, qui s'appelle La plus belle ville du monde, et la plus belle ville du monde c'est...
Paris. Paris libéré.
Et nous serons avec Frédéric Foujat qui est le réalisateur. Mais pour l'instant on va parler d'une belle histoire qui finit bien.
Ça, c'est bien. En direction le Var, maintenant.
Voilà. Et nous sommes avec André Roudot, qui est conseiller technique du Spéléo Secours français et qui a géré le secours d'un chien qui était coincé dans une crevasse et qui s'appelle Duc. André, bonjour.
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 Bienvenue. Alors, ça s'est passé dans le Var, donc la semaine dernière. Votre équipe de spéléologues a été contactée pour venir en aide à un teckel qui s'appelle Duc, donc, qui était coincé dans une crevasse. D'abord, comment s'est-il retrouvé dans cette crevasse?
En fait, ce chien, ce teckel, Duc, a coursé un renard, on suppose que c'est un renard,
qui était allé se réfugier dans sa tanière, et le chien l'a suivi et est passé dans ce boyau et puis il est tombé dans une faille de 3 mètres.
Ah oui.
Qui l'empêchait de remonter.
Alors les sapeurs-pompiers sont arrivés, contactés par le maître, ils ont opéré dans un premier temps sans succès, et puis on a fait appel à vous, c'est ça?
Oui, tout à fait. Sur réquisition préfectorale, le SPO Secours français a été engagé sur l'opération, et ça a permis, au bout de 6 heures, après de nombreux tirs souterrains, de dégager ce boyau pour accéder au-dessus du chien et le récupérer.
Parce que quand même, le chien, il est resté 5 jours dans cette crevasse, c'est ça? Comment était-il hydraté, nourri? Est-ce qu'on savait s'il était blessé?
Oui, tout à fait. Le chien était en bonne santé, puisque les sapeurs-pompiers du Var avait mis en place une caméra.
Une caméra?
Voilà, tout à fait, oui. Qui permettait de voir le chien et son état. Et puis le propriétaire, avec son ingéniosité, avait descendu à l'aide de tuyaux des croquettes et de l'eau. Donc le chien était alimenté tous les jours.
C'est-à-dire qu'avec le tuyau, il envoyait de l'eau et des croquettes au chien, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Avec un tuyau de 5-6 mètres, qui faisait office d'alimentation en eau et en croquettes directement dans la faille.
Racontez-nous alors comment s'était effectué le sauvetage de ce chien.
Ben en fait, nous sommes arrivés, nous avons mis en place toutes les procédures nécessaires, puis nous avons effectué les tirs tout en protégeant le chien qui était au fond de la faille.
Oui. Bah, justement, comment vous avez fait?
Mais oui, parce que
on a l'habitude de travailler au contact. Donc ce que nous avons fait, nous avons placé des bâches, des tapis, afin qu'aucun petit caillou ne tombe sur le chien.
Oui.
De temps en temps, les pompiers débarraient un ventilo pour faire une circulation d'air.
Oui.
Et puis après, nous l'avons récupéré. Non, il était intact, il était en grande forme. Tout allait bien.
Il n'était pas trop stressé?
Non, a priori non. Vous savez, c'est quand même un chien de chasse. Donc, nous, c'est des micro-tirs que nous faisons. Hein. Nous mettons des petites charges.
Oui.
Afin de fissurer la roche et de pouvoir déblayer. Donc, non, il n'y a eu aucun souci. Il était sorti. Puis d'ailleurs, il est sorti sous un tonnerre d'applaudissements.
Bah, j'imagine. Ouais,
il y avait une grande émotion. Hein, je peux vous dire.
Ah bah oui, bien sûr.
Il n'a rien lâché. Avec sa persévérance. Il n'aurait jamais abandonné parce qu'en fait, il entendait avec sa clochette.
Ah.
Depuis le départ, on entendait le chien.
D'accord, ah oui, parce qu'il avait une clochette comme la plupart des chiens de chasse. Ouais. Est-ce que vous êtes souvent appelé pour sauver des animaux tombés dans des crevasses, dans des trous?
Ben, la fonction première du SPO Secours français, c'est d'aider une victime, d'aller en aide à une victime en spéologie. Mais bon, il nous arrive d'intervenir sur des secours à animaux, quoi, des chiens, souvent des chiens de chasse qui se coincent dans une fissure.
Oui.
Des moutons qui peuvent tomber dans une crevasse. Ça arrive quelquefois, oui, sur tous les départements.
Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous aussi, peut-être le plus dangereux quand vous intervenez pour un animal? Parce que là, vous pouvez pas lui dire, on arrive, faut se calmer.
Non, c'est certain, mais bon, je pense que, du moment que le dénouement final, c'est de récupérer le chien, je pense qu'il n'y a aucun souci.
Mais vous avez eu une formation spéciale pour secourir les animaux?
Non, on procède de la même façon qu'on va intervenir sur une personne. Hein. On prend les mêmes engagements, on travaille de la même manière. C'est identique.
D'accord.
Bah écoutez, merci André, bravo en tout cas hein, pour ce secours. Quand même, au bout de 5 jours, ce chien a été sauvé.
C'est super.
Grâce à vous, grâce aux sapeurs-pompiers.
C'est un joli conte de Noël.
Oui.
Voilà, on voulait en parler parce que ça fait la belle histoire de Noël. Et Duc est en pleine forme aujourd'hui, il est auprès de son maître.
Voilà,
il a tenu quand même 5 jours au fond de cette crevasse et grâce à vous, il a été libéré. Très bien. Voilà. Merci André.
Merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Merci à toute l'équipe de Spéléo Secours Français.
Bon,
merci.
Bonne fête, hein, bon Noël justement.
7h42 Laetitia, on va revenir dans un instant. On va découvrir donc ce documentaire sur la faune sauvage de Paris dans quelques minutes. Et puis on aura aussi Joe. On va parler du massacre des rats à Paris.
Ah, c'est bien d'en parler parce que c'est vrai.
Vous connaissez cette histoire incroyable.
Oui.
Et on va en parler dans un instant avec Joe qui va nous expliquer ce qui se passe. Il a d'ailleurs mis en ligne une pétition qui a récolté plus de 20 000 signatures. C'est assez impressionnant. On en parle dans un instant. Et puis je vous rappelle le 3216 animaux@rmc.fr pour joindre notre vétérinaire ce matin. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h moins le quart, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Avant de retrouver dans un petit quart d'heure la météo, les infos de 8h et puis l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Merci de nous rejoindre, peut-être venez-vous de vous réveiller. Dans un instant, Laetitia, on va découvrir ce documentaire signé Frédéric Foujat sur Paris, qui est une ville, on le sait, bah, c'est la plus belle ville du monde, mais c'est aussi une ville intéressante concernant la faune sauvage.
Et hein, oui.
C'est assez étonnant.
Et c'est étonnant et ça
on ne s'en doute pas.
Un magnifique documentaire qui va passer sur M6 pour les fêtes.
Mais c'est bien que ce soit M6 parce que la plupart du temps, c'est sur les chaînes du service public. Là, ça change
voilà.
Un petit peu.
Et en prime time, en
et
plus.
Et en prime
attention.
Time, en plus. On va en parler dans un instant, mais auparavant, nous accueillons Joe qui nous a appelé au 3216. Bonjour Joe.
Bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Alors, vous avez mis en ligne une pétition qui a déjà plus de 20 000 signatures. Contre quoi ?
Ben, contre le massacre des rats à Paris et ailleurs, hein, en France. En ce moment, il y a des travaux. Alors, j'ai des hypothèses parce qu'on voit les rats. Alors, d'une certaine façon, on comprend qu'ils sont tenus en captivité dans les égouts et qu'ils n'ont pas intérêt à sortir. Dans les égouts, ils ont une utilité énorme. C'est-à-dire que sans rats, on ne pourrait pas, s'il n'y avait pas de rats, on ne pourrait pas utiliser nos toilettes parce qu'ils mangent toutes les détritus.
Voilà, exactement. C'est vrai.
Hein?
Oui. Voilà, vous savez, le rat et l'homme ont une histoire commune depuis des millénaires. C'est-à-dire que les rats se sont rapprochés des hommes pour manger les détritus, etc. des hommes, hein, tout simplement.
Oui, exactement. Et donc, ils mangent 9 kilos de détritus qui pourraient boucher les canalisations par seconde.
Oui.
À Paris simplement. Donc, ça fait 500 tonnes par jour. Je ne sais pas si vous voyez, mais les égoutiers ne pourraient pas travailler si on n'avait pas de rats. Mais les pauvres rats, ils sont, on leur attribue des tas de maladies, de choses horribles. Bon, alors, il faut déjà savoir que le rat brun ne peut pas donner. Alors ça, vous allez être d'accord avec moi. Si je dis des bêtises, vous, n'hésitez pas.
Non, mais je suis, voilà, pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec vous et je trouve que c'est un scandale ce qui se passe à Paris en ce moment.
Merci. Moi, je voudrais avoir un rendez-vous avec la maire et si vous voulez m'accompagner.
Non, bah écoutez, je viens avec vous.
Je serais ravie. Ah, merci. Oh, quel soulagement. Bon, il y a des associations qui me soutiennent, mais pas...
Savez, oui, parce qu'il faut juste dire un petit peu ce qui se passe, c'est que la mairie de Paris a décidé d'éradiquer les rats dans les jardins, parce qu'il y a des rats que l'on voit dans les jardins. Elle a fermé les jardins publics pour exterminer les rats avec des produits chimiques.
Extrêmement douloureux.
Voilà, hein, qui sont douloureux.
Mais pour des raisons, j'imagine, des raisons justifiées ou pas, Laetitia ?
Alors, les raisons invoquées par
la mairie
sont les raisons sanitaires. Et en même temps, ils ont un discours en disant « Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger pour l'homme. »
Exactement.
Alors, je me dis, dans un même discours, dire qu'il y a un danger sanitaire et en même temps dire qu'il n'y a aucun danger pour l'homme, c'est se contredire.
Laetitia, vous qui êtes vétérinaire, est-ce qu'il y a un danger de mettre en contact un rat et un homme ?
Alors, d'abord, vous n'êtes pas en contact avec un rat dans un jardin, il ne va pas venir...
Non, mais on peut imaginer qu'un enfant qui est, par exemple, dans un parc, il perturbe un rat, etc., est-ce qu'un rat peut avoir, je ne sais pas, un comportement agressif, par exemple ?
Alors, d'abord, le rat a peur de l'homme, donc il ne va pas aller mordre un enfant, parce
d'accord.
que l'enfant voudra toucher le rat. D'ailleurs, pour attraper un rat, c'est...
Il faut se lever tôt.
Hein. C'est un peu comme attraper un écureuil, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Ensuite, c'est vrai que le rat, comme d'autres animaux, ont des maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme. Concernant ces maladies, je me suis renseignée auprès d'un médecin qui travaille en hôpital et qui d'ailleurs a écrit aussi un édito sur un forum pour dire que les cas, par exemple de leptospirose, du aura, etc., étaient minimes en France. Et c'est pas parce que vous voyez les rats. Le problème des rats aujourd'hui à Paris, et je pense que c'est là d'où vient cette décision de les éradiquer, c'est que on peut les voir. Or,
exactement. On les met en captivité. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait appliquer la loi 521.1 du Code pénal est applicable parce qu'ils sont en captivité dans les égouts. Et s'ils sortent, on les tue. C'est bien la preuve qu'ils sont en captivité.
D'accord. Donc, oui, j'allais pas jusqu'à cette réflexion-là. Mais c'est vrai que quand on analyse les raisons pour éradiquer ces rats, on se dit on parle de santé publique et en même temps on dit qu'il n'y a pas de risque, donc il n'y a pas de problème de santé publique, c'est quand même la mairie qui le dit. Et en même temps, c'est juste.
C'est juste la mairie, le docteur Saline. C'est un médecin.
Voilà. Et en plus, ils disent que ça gêne les gens de voir les rats.
C'est faux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui adorent.
Donc ça veut dire que voilà, que parce que il y a trois Parisiens qui sont phobiques des pigeons, faut tous les tuer ou phobiques des moineaux,
oui, les
voilà.
Pigeons, c'est le même problème. Pour
c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont peur des souris et des rats aussi.
Oui,
c'est
bien
vrai.
Sûr, mais ça veut pas.
Ça,
oui.
C'est une phobie particulière. Ça s'appelle la musophobie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement malades, c'est-à-dire qu'ils sont capables de grimper sur une chaise. C'est vrai ça. Et ça peut leur occasionner de se casser la figure, ce qui est le vrai danger des rats.
Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Très bien.
Donc voilà, alors vous avez mis cette pétition, c'est ça, en ligne, et vous avez déjà 20 000 signatures.
Plus de 20 000, et puis on en parle dans le monde entier, ce qui est absolument ahurissant.
Ah bon ?
J'ai mon nom en chinois, en japonais.
La classe, ça c'est la classe.
J'ai des télés étrangères qui viennent m'interviewer, là.
Ah oui.
Jeudi, j'ai une télé, mardi, j'ai une télé américaine, hispanique qui vient de m'interviewer. C'est incroyable.
D'accord.
C'est incroyable.
Tout le monde s'inquiète.
La mère de Paris se réveille.
Attendez, dans le monde entier, le rat parisien le plus célèbre, c'est quand même Ratatouille.
Absolument.
C'est vrai. Et il est à Paris.
Ben oui, c'est le rat parisien le plus célèbre.
Mais c'est ce que j'ai dans les articles étrangers. La ville de Ratatouille extermine les rats. C'est exactement ce que j'ai lu hier. Je ne sais pas si c'était... Et alors, en chinois, comme ils ne savent pas Ratatouille, ils n'ont pas la référence, ils disent la ville de Mickey.
Ah oui.
Voilà.
Merci Joe, et on va suivre un petit peu votre
aventure.
Voilà,
et on va mettre en ligne.
La pétition, elle est sur mon opinion, je crois que c'est .com, sur mon opinion.
D'accord.
Et puis, si vous pouviez me contacter peut-être en privé, docteur, afin qu'on puisse voir si on peut avoir un rendez-vous. J'ai des médecins également qui viendraient.
D'accord, on va s'en charger, Joe. Merci en tout cas.
Merci, Joe, merci.
Bon, et bien Laetitia,
on parle de Paris.
On parle de Paris, et je crois même que dans le documentaire de Frédéric Fouja, il y a des rats.
Des myocastors.
Mais avant d'interviewer Frédéric et qu'il nous présente son documentaire, on va écouter tout de suite la bande-annonce de ce doc qui sera diffusé sur M6 le 1er janvier prochain.
Les espèces sauvages vivent à côté de nous des aventures insoupçonnées. Ils viennent chercher l'amour, le gîte ou le couvert. Au milieu de nous, ils réussissent à élever leurs petits. Certains attendent que nous dormions pour mener la grande vie. Il y en a même qui viennent pour la chasse. Sont-ils revenus? Comment vivent-ils aujourd'hui à nos côtés? Tout proche de nous, mais à l'abri de nos regards.
Eh oui. Donc Frédéric Fouja est avec nous.
Voilà.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Alors vous êtes réalisateur du documentaire magnifique, qui est un magnifique hommage à Paris et sa faune sauvage, qui s'appelle La plus belle ville du monde, qui sera diffusée sur M6 en prime time, attention à 21h, le dimanche 1er janvier, dans
c'est
deux
super.
Semaines.
Et exactement.
Juste préciser que vous avez entendu la voix de la comédienne Audrey Fleurot, qui est la voix off de ce documentaire. Alors, on vous a déjà reçu dans cette émission, c'était pour vos deux opus précédents qui s'appelaient Le plus beau pays du monde, qui était un peu, où vous nous montriez la richesse faunistique de la France. Et là, vous faites un documentaire sur les animaux sauvages à Paris, c'est-à-dire dans une grande ville. Alors pourquoi s'intéresser à la vie sauvage à Paris ?
Alors parce qu'en fait, il y a un déclencheur qui est de voir des animaux dans la ville. Et j'habite sur la rivière, moi, sur la Seine, et j'en vois beaucoup. Et ça m'a toujours intrigué. Quand j'ai commencé à faire des études là-dessus, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un mouvement qui était beaucoup plus profond que ça, qui traversait les siècles, un conflit entre la nature et la cité. Et qu'à Paris, il y a 4 ou 5 siècles, il n'y a eu absolument plus de nature, c'est-à-dire plus d'arbres, plus d'eau, plus de parcs, plus rien. La ville était totalement... les hommes se protégeaient totalement de la nature, ils voulaient plus avoir de nature auprès d'eux. Et ce mouvement-là, il a changé, il a évolué, et que depuis... En fait, c'est Catherine de Médicis qui a relancé la nature à Paris,
oui,
avec une mode qui s'appelle la promenade, au XVIIe siècle, et elle a remis des jardins dans Paris, et cette nature, elle est revenue petit à petit jusqu'à aujourd'hui, Donc il y a un mouvement très fort, une réconciliation entre la ville, qui est le symbole de la civilisation, et la nature, symbole du sauvage. Les deux se réconcilient aujourd'hui, au point qu'on fait, la mairie notamment, hein, fait plein de projets de nature pour 2024. Paris sera bourré de jardins et l'environnement va être
projeté. Ça va être formidable.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de 3000 espèces différentes à Paris.
Quelles sont les plus étonnantes et celles qui vous ont le plus surprise, que vous avez pu voir?
Alors, moi, le plus étonnant, c'est ce papillon japonais de Bombyx de l'Élante, hein, qui a survécu uniquement à Paris, parce qu'il n'y en a pas ailleurs en France. C'est un papillon qui était importé du Japon avec son arbre hôte, il y a 2 siècles de ça, hein, et qui a survécu uniquement dans Paris, ce qui était très étonnant, parce qu'il a un mode de reproduction où les femelles se posent sur une branche, envoient des phéromones et attirent les mâles. Et donc c'est complexe. Les bombix arrivent émettre et recevoir des signaux à l'intérieur de Paris, quelquefois à des kilomètres de distance. Ils envoient des phéromones, des signaux, et ils font venir les femelles, font venir les mâles, traverser tout Paris pour venir jusqu'à eux. Ça, c'est très très étonnant.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que certains animaux se réfugient à Paris pour fuir l'homme, un petit peu comme les renards ou les myocastors.
Alors, pas pour fuir l'homme, mais pour fuir la campagne.
La campagne et peut-être la chasse.
La pression écologique qui est dans la campagne, et pas forcément la chasse. Pour les myocastors, c'est beaucoup l'empoisonnement. Hein. Ils se font tirer dessus, mais ils se font aussi beaucoup empoisonner. Donc ça, on voit bien. Les renards aussi, ils fuient une pression de chasse, mais pas seulement. Donc il y a un mouvement qui fait que... les animaux viennent vers la ville parce que c'est plus sûr, il y a plus de sécurité.
Et pourtant, c'est une grande ville.
Ouais, mais il y a d'autres raisons. Ils sont attirés aussi par la ville parce qu'elle offre une meilleure température.
Oui, il fait plus chaud à Paris.
Oui,
plus chaud. Donc il y a un certain nombre de facteurs très étonnants. Hein. On connaît pas bien, honnêtement, il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus. On connaît pas bien les raisons, mais en tout cas, on assiste à un vrai retour, et notamment les oiseaux, hein, c'est eux qui ont le plus facile, qui se déplacent le plus facilement.
Ouais. Frédéric, donc, on découvrira ce magnifique documentaire le 1er janvier sur M6, Laetitia.
La plus belle ville du monde, diffusée donc à 21h le 1er janvier, donc vous le dites, et puis racontée par la comédienne Audrey Fleurot.
Frédéric
merci beaucoup. C'est un
bonne fête.
Magnifique documentaire, comme tous les documentaires animaliers que vous avez fait. Mais là, vraiment, vous voyez en plus, vous volez avec les oiseaux au-dessus de la capitale. Attendez-vous ça, c'est vraiment magnifique.
Parfait. Laetitia, on se quitte avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Et c'est tellement mignon, en plus c'est d'actualité. C'est un petit chat qui a un petit bonnet de Père Noël et qui ne veut pas qu'on touche à ses cadeaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle est sur la page Facebook de
Vos
Animaux sur RMC.
Cette vidéo.
Elle est vraiment trop top. Donc allez-y, Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur J'aime au passage. Laetitia, on sera là dimanche prochain, bien sûr.
Oui, et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein, un bon réveillon de Noël, hein, puisque nous, ça sera le lendemain, bien
évidemment.
Sûr. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine.
Et dans un instant, l'automobile avec Jean-Luc Moreau. À tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.